Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme d'habitude, je suis accompagné de Yann.
Hello, hello.
Aujourd'hui, on reçoit Robin, un pote de lycée et le créateur d'un super podcast ciné que je recommande. Ensemble, dans cet épisode, on analysera son top 3 et la manière dont chacun des jeux cités a façonné son profil de joueur. Bonne écoute. Salut Robin.
Salut.
Comment ça va?
Bah ça va très très bien, écoute, comment vous allez-vous?
Tranquillement, écoute.
Ça va, ça va.
Bon, je vous pose la question parce que vu que, comme tu l'as dit en intro, du coup j'ai un petit podcast ciné pour le coup qui s'appelle La Troisième Rangée, qu'on peut retrouver, voilà, vous tapez La Troisième Rangée, ça se trouve, tous les 15 jours on parle des sorties ciné et tout, et j'ai le bonheur de présenter cette émission, et on pense jamais à demander au présentateur comment ça va. Le présentateur demande à tout le monde, ouais, ça va, et tout le monde. Et personne lui dit, et toi, ça va? Donc voilà, j'avais envie de demander à Chris et à Yann, qui ont la gentillesse de m'accueillir aujourd'hui, si vous allez bien. Ça me semblait important en tant que présentateur. Je sais qu'on peut avoir ce côté un peu difficile dans la vie.
Ça voilà, fait plaisir.
J'avais envie de savoir que vous étiez heureux.
Ah, Chris est tout le temps heureux.
Je crois que ça y est, c'est déjà mon épisode préféré après une minute. Bon, pour le coup. On peut tout de suite entamer et regarder le top des trois jeux qui t'ont le plus marqué.
Ouais.
En numéro 1, je crois qu'on retrouve Pokémon.
Écoute, Pokémon Rouge, donc je vais pas être très très original, mais c'est tellement indispensable dans ma vie et d'en parler tout simplement. Alors la première expérience, la première fois où j'ai touché, si vous voulez, en fait c'était ma cousine qui avait laissé sa Game Boy une semaine chez moi pour une raison que je me souviens absolument plus. Je devais avoir 6-7 ans. Et alors, même si c'était la Game Boy Color à pile et tout, en fait, tu pouvais quand même la brancher à une prise secteur. Ça pouvait marcher, je sais plus pourquoi. Alors, peut-être parce qu'il y avait des piles rechargeables ou peut-être que ma mémoire me joue des tours. En tout cas, je me souviens de jouer avec un câble qui faisait peut-être 10 cm d'alimentation collé contre mon mur par terre sur le carrelage, et c'est mon premier souvenir de jeu vidéo, en fait, c'est en train de jouer à Pokémon Rouge par terre et être complètement scotché parce que je découvre un art, en fait, le jeu vidéo, et je découvre l'interactivité, je découvre plein de choses qui peut-être aujourd'hui pour les toutes jeunes générations qui grandissent avec des téléphones portables, avec tout de suite la capacité tactile et tout, c'est peut-être moins fort, mais à cette époque-là, d'un coup tu passes d'un monde que tu regardes à un monde avec lequel tu interagis et c'est super fort quoi. Et après par contre j'ai dû y jouer une semaine, faire n'importe quoi, et puis 2 ans après j'ai eu ma propre Game Boy Color et c'était le premier jeu que je voulais, ce jeu là parce que je connaissais que ce jeu là et j'ai pu entrer dans le monde de Pokémon, et c'est un monde qui aujourd'hui à 27 ans ne m'a heureusement ou malheureusement, je sais pas quitté.
Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais à peu près?
Quand j'ai commencé Pokémon? Ouais. Bah ouais, du coup 8-9 ans. 8-9 ans, et à 8-9 ans, c'est marrant parce que tu joues sans trop comprendre. Et typiquement, la première anecdote que j'ai de Pokémon, en fait, c'est que en fait je lisais pas, ou en tout cas je faisais pas attention à ce que les PNJ me disaient. Et alors ça va peut-être dire quelque chose, je pense que ça va dire quelque chose à beaucoup de monde ce que je vais raconter, mais en fait, un des premiers trucs que tu dois faire dans Pokémon, donc tu vas à la première ville, et il faut ramener un colis au professeur Chen, donc il faut aller dans la première ville et redescendre après. Et donc à ce moment-là, t'as déjà ton starter. Moi, j'avais pris ça à la mèche. Je pense qu'on pourra revenir après. On fera un petit quiz des meilleurs starters de la première gen sur Pokémon. Mais bref. Donc j'étais revenu et en fait, j'avais pas capté qu'il fallait redonner le colis au prof Chen, parce qu'en plus, les jeux de 96, c'est quand même pas les jeux aujourd'hui, et c'était beaucoup moins guidé. Même si aujourd'hui, Pokémon Rouge nous semble évident parce qu'on l'a tous fait, tu vois. Je pense pas que ça soit si évident si tu le connais pas, même à nos âges, tu vois, aujourd'hui, de savoir ce qu'il faut faire. Et donc moi, je savais pas qu'il fallait pour faire progresser l'histoire, et je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, il faut que mon Salamèche, il soit plus fort. Ce qui fait que j'ai entraîné un Salamèche en un Dracaufeu, donc en passant par Reptincelle, j'avais un Dracaufeu, je me souviens, niveau 36-37, avant d'être passé au premier truc, et donc j'avais farmé mon Salamèche sur les premières herbes où t'as des Roucoules et des Piafabec niveau 3, donc t'imagines le temps que ça m'a pris.
Mais qui fait ça?
Bah moi.
Honnêtement, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense, parce que je suis d'accord que, tu sais, moi, je me rappelle très bien être bloqué à cet endroit-là, puis demander au PNJ, tu sais, j'arrêtais pas de parler au même PNJ qui bloque la route.
Oui, voilà, exactement.
Là, j'allais à la Ligue, puis tu disais genre, mais moi, j'ai envie d'aller à la Ligue, là, qu'est-ce qui se passe?
Grave.
Et c'est vrai que la Ligue te fait un peu comprendre, ouais, il faut des trucs plus forts, donc tu dis, bah.
Ouais, mais faut vraiment se rendre compte que il y avait pas de flèche, il y avait pas d'objectif, et du coup, il y a mon chien qui fait poète, visiblement elle me trouve très bête d'avoir entraîné un drac au feu j'ai même pas eu un badge, bref, mais du coup j'ai dû rouler sur le jeu après et après pour le coup je me souviens plus exactement de ma partie mais par contre ce que je sais c'est que je l'ai refait X et Y et Z fois et je suis allé chercher, j'ai essayé d'aller chercher Mew derrière le camion, voilà machin. J'ai fait toutes les trucs. Je me souviens qu'il y avait un pote qui m'avait dit qu'il y avait une version noire où tu commences avec Ronflex. J'ai cherché cette version sur internet pendant des plombes avant de me rendre compte que c'est juste un gros mytho en fait.
Tellement de mythes.
Merci. Voilà, Ederman, tu m'as fait vivre dans le mensonge pendant super longtemps, donc je te déteste. Mais voilà, donc Pokémon Rouge, non, c'est un jeu que j'ai refait. Je crois que la dernière fois que je l'ai refait, ça, il y a 2-3 ans, c'est un pèlerinage presque. Tous les 3-4 ans, on fait Pokémon Rouge.
Ça me fait penser à une histoire, quand j'étais en camp de vacances. Tu vois, j'étais dans le bus, et puis à un moment, il y a un petit, j'avais, 8-9 ans, pareil. Puis à un moment, il y a un petit qui crie, un petit, mais enfin, moi aussi, j'avais le même âge, quoi, qui crie, c'est bon, j'ai fini Pokémon, j'ai les 151, enfin, genre, tu sais, il était 150. Ouais. Il était refait, tu vois, il était vraiment là, ouais. C'est bon, j'ai fini. Puis il y a un moniteur qui dit sauvegarde et passe-moi le truc. Moi j'ai aidé les développeurs. Je vais te dire si tu l'as vraiment fini, tu vois. Mais peut-être c'est les moniteurs qui ils s'inventent une vie, tu vois. Puis, je me rappellerai toujours. Il a retiré la cartouche. Il a regardé dedans. J'étais juste à côté, tu vois. Il a regardé dedans. Il était là en mode ah ouais je vois. Et en lui redonnant, elle est tombée par terre. Il a rallumé. Plus de sauvegarde.
Non.
Et moi je comprenais pas ce qui se passait, tu vois, mais le gosse il pleurait,
ouais.
Genre le moniteur il était là en mode putain ma blague elle est vraiment, c'était la pire blague possible, tu vois, genre,
ouais.
Et le gosse était là, lui il pensait, il pleurait, mais il était là en mode bah non vas-y rends-moi ma sauvegarde maintenant, c'est pas drôle, tu vois. Et derrière il avait dit ouais bah, parle au développeur, fais quelque chose, dis-leur de me la rendre, dis-leur de moi la sauvegarde. Puis tu sais genre
terrible.
Le moniteur, il a dû voir sa vie passer, tu vois.
Ça me brise le cœur, son histoire, c'est terrible. Surtout qu'à l'époque, choper les... Déjà, aujourd'hui, parce qu'il y en a 900 maintenant, mais à l'époque, choper les 151, entre les échanges, il fallait trouver les choses, et le Mew qu'il fallait avoir, soit en trichant, soit par hasard, je sais pas trop quoi, c'était pas évident.
Ouais, non, vraiment, je pense que c'était... Mais moi, j'étais impressionné, j'étais genre, putain, il y a des gens qui ont vraiment cette mission-là, tous les capturer, moi... Moi, je faisais pas comme toi, mais... Je faisais tout avec mon starter. C'est-à-dire, je faisais toute l'histoire qu'avec le starter.
Oui, mais ça, carrément. Ça, carrément, par contre.
Ça,
j'ai mis beaucoup de temps à jouer à Pokémon, avec des teams de 4, 5, 6 Pokémon. Aujourd'hui, c'est quand il y a un nouveau Pokémon qui sort ou que je décide de refaire un vieux Pokémon, c'est quasiment religieux, la manière dont je m'y prends.
Tu fais un team building avant.
Je fais un team building avant, ça me prend une semaine, je trouve ça trop bien. Mais voilà, après Pokémon Rouge, c'est un jeu. Enfin, je sais pas vous, mais moi je le connais vraiment par cœur. Et comme je disais, j'ai dit le mot pèlerinage tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand j'y reviens, il y a un côté. Je sais. Je pense que je refais. Alors évidemment, c'est que j'exagère, mais c'est pour vous donner la subjectivité que j'en ai. Je refais les mêmes pas aux mêmes endroits, mais c'est toujours un plaisir, quoi. C'est-à-dire que je fais toujours les mêmes choses dans le même ordre, au même moment.
Sur le même sur Game Boy Color.
Alors pas sur Game Boy Color, mais tu vois typiquement il était ressorti sur 3DS.
Rouge,
tu vois. Ouais.
Ah même avant rouge feu vert feuille.
Ah oui bah après il y a les remakes mais qui sont super. Mais moi après.
Ah oui.
Sur Pokémon, moi je les aime tous en fait. Je vais pas te dire la première gen c'est la meilleure ou la quatrième elle est pas bien ou machin. Franchement moi je les aime tous. Et même chaque Pokémon qui existe je le kiffe. Et c'est vraiment ça date de l'enfance, ça c'est vraiment un truc, ça me passionne, c'est le côté aventure, c'est le côté, il y a le côté un peu mignon aussi, c'est naïf comme il faut. Même le film Pokémon, je l'ai trouvé trop bien, alors que bon, c'est pas un mauvais blockbuster, mais bon, faut pas déconner non plus, quoi. c'est quand même pas dingo, mais ouais, non, c'est quelque chose qui me reste et ouais, le dernier qui est sorti, je l'ai fait jusqu'au bout.
Il y a bien un Pokémon que t'aimes pas. Ouais, il y en a bien un où tu dis ouais, il est dégueulasse, je déteste, tu vois.
Franchement, peut-être Kaiminus. Kaiminus, c'est le starter haut de la deuxième gen. J'aime pas trop. Et alors, je vais te dire un truc. Autant je kiffe Salamèche, je kiffe Dracaufeu, évidemment. Mais Reptincelle, je l'aime pas. En fait, Reptincelle, il fait trop ado pour moi. Il a un côté un peu boutonneux, j'aime pas en fait. Et en plus, c'est un petit con dans le dessin animé. Je l'ai jamais kiffé en fait. Genre Reptincelle, il est relou, genre juste bah être ton, fait des attaques cool, tu vois. À chaque fois, il est là, il fout rien, il fait des doigts à Sacha. Non, je suis désolé. Au bout d'un moment, le Pokémon, il y a une notion de subordination. le mec qui va trop loin.
Ah moi il y en avait, je sais plus c'était quoi, c'était dans la dernière génération, il y en a certains, tu sais, genre le concept, c'est plus genre en étant adulte tu te dis putain mais le concept, genre les mecs se sont vraiment mis et ont fait bon on va faire un Pokémon épée, puis ils ont juste mis des yeux sur une épée, tu vois. Il y a un peu de l'abus parfois, tu vois.
Moi je suis trop fan de ces trucs là, mais en fait pour moi, tu vois, il y a ce que je dis souvent, c'est que pour que Mewtwo soit classe comme Mewtwo, ou que pour que Lugia soit classe comme Lugia, eh ben il faut des Pokémon épée avec des yeux. Et il faut des carnes artichauts, tu vois. Moi, j'aime bien le côté... En fait, ça me ferait chier si dans Pokémon, tous les Pokémon, ça serait des Uber Dragons avec des grosses ailes qui sont ultra balèzes. Il faut des Pokémon genre rondoudou qui sert à rien. Mais en fait, j'aime bien le côté en fait où on donne... C'est ça aussi que je trouve super tendre dans Pokémon, c'est que ça donne la chance à des trucs qui doivent servir à rien normalement, tu vois. Et qu'il y a un Pokémon graine, ça m'éclate. Genre ça m'éclate, je me dis c'est trop bien que, tu vois, on est dans un jeu qui peut être compétitif où il y a des stats, maintenant il y a des stats, attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse, les EV, les IV, je sais pas quoi. Et dedans, malgré tous les trucs qui peuvent te dire, il y a des mecs qui font des coupes du monde, des compétitions, c'est ultra sérieux de Pokémon. Et bah t'as un Pokémon graine qui a 10 PV et genre 5 en attaque, ça m'éclate, vraiment ça m'éclate.
C'est vrai que présenté comme ça, j'y ai jamais pensé, mais ça a du sens quoi.
Tu vois, si tout est de l'or, rien n'est de l'or, tu vois. Si le lion, c'est le roi des animaux, c'est parce qu'il y a un ornithorynque à côté qui ressemble à rien. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
Il y a Tadmorph, quoi, aussi. Tu vois, genre...
Oui, voilà. Mais c'est trop bien. Mais Tadmorph, il dit beaucoup de choses, en plus. Tu vois, il y a eu pas mal de scénarios un peu environnementaux avec Pokémon. Ouais. Voilà, ça utilise les Pokémon de pollution pour dire, bah voilà, ça agit sur notre environnement. C'est trop malin. En vrai, c'est vachement bien.
Ah, puis mais moi en plus que là-dedans, moi c'est le mec qui a inventé les noms en français, parce que la France a des noms traduits. Il y a plein de pays qui traduisent pas, tu vois. En France on a traduit. Je trouve ça trop drôle que t'as Tadmorph et t'as gros Tadmorph.
Ouais.
Non vraiment le mec, tu sais, c'est pas fait, il a fait bon bah il y a Tadmorph là, il est petit, puis là lui il est énorme, bah, c'est un gros Tadmorph.
Voilà. Et tout le monde comprend et c'est trop bien. Mais ouais non, c'est, je trouve ça trop bien. Après il y a des jeux de mots qui sont ouf avec les noms de Pokémon, mais de toute façon je pourrais vraiment, Pokémon, c'est le sujet où je pourrais le retourner dans tous les sens et trouver des super angles et trouver des super anecdotes, et je pense que tout le monde peut le faire, et c'est aussi pour ça que ça marche. C'est pas, si c'était juste des petits trucs mignons roses japonais à collectionner, voilà, faut qu'il y ait quelque chose en plus. Et je pense qu'il y a une grosse part d'enfance, mais j'ai la foi dans le fait que le concept de Pokémon est quelque chose d'assez tendre et d'assez naïf dans le bon sens du terme, pour être pourvoyeur de plein de qualités.
Ouais, puis pour revenir à Pokémon Rouge, moi le remake Verfeuille, je l'ai adoré. Alors les graphismes sont un peu différents, etc. Mais tu sais, ils avaient pris le temps de rajouter de l'histoire, rajouter, genre, même, je crois, dans la ligne principale qui était juste reprise, il y avait quand même des choses en plus. Et derrière, à la toute fin, il y avait des îles en plus, des Pokémon. Je crois que tu trouvais des Pokémon de Johto, il me semble. Ouais. Tu trouvais d'autres types de Pokémon, tu vois.
Il y a un truc aussi pour rester dans Pokémon Rouge et pas y rester. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le concept de ROM hack ou pas, ouais. De hack ROM. Ouais. En fait, pour l'expliquer rapidement pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est des gens qui créent des cartouches de Pokémon par émulateur, qui sont soit qui sont complètement indépendantes, soit qui reprennent le code de Pokémon Rouge ou de la première, deuxième, troisième gen comme tu veux, et qui en font des histoires originales. Et il y a un mec qui a repris donc tous les graphismes et l'univers de Pokémon Rouge Feuille et qui a fait ce qu'on appelle la Pokémon Team Rocket Edition. C'était en fait, ça lui a pris, il est le mec qui était tout seul, ou je crois pas très, ils sont pas très nombreux, ça lui leur a pris 4 ans à le faire. Et en gros, tu incarnes un sbire de la Team Rocket et tu joue dans un univers qui est un univers parallèle à Pokémon Rouge, donc à l'histoire que tu fais dans Pokémon Rouge, dans le Pokémon normal. Et c'est trop bien parce que déjà c'est vachement ultra bien écrit. Ça m'étonne de quelque chose qui est très généralement les acromes ou tout ce qui est travail de fans autour des jeux vidéo. Des fois c'est un peu tu sais c'est un peu les mecs ils ont 15 ans ils écrivent enfin ils mettent des insultes à tout va, ils croient que ça va faire galerie alors que pas du tout. Et là en fait en gros ça déconstruit tout ce que tu fais et ça montre que le personnage que tu joues donc Sacha ou Red ou ce que tu veux en fait c'est un mec qui a aucune pitié et qui veut juste gagner et qui rush tout le jeu et qui profite pas de l'univers de Pokémon si tu veux. Et du coup, t'as des histoires ultra dark avec le professeur Chen, avec tu te rends compte que le méchant donc c'est Simon Giovanni là, il est pas si méchant que ça et qu'il y a des trucs très politiques, il y a des questions sur le fascisme dans Pokémon, sur le socialisme dans Pokémon et tout. Et c'est vraiment renversant et en plus il y a une mécanique qui est ultra marrante, c'est que tu joues pas comme dans Pokémon où tu captures des trucs et tout. En fait, si tu bats un dresseur, tu peux lui voler un Pokémon. Et c'est comme ça que tu, en fait, ta team, elle change tout le temps, parce que, bah, tu vas rencontrer, au début, t'as un Rattata, forcément. Et avec ton Rattata, tu vas battre un mec qui a un Rookool, tu vas lui prendre son Rookool. Avec le Rookool, tu vas l'évoluer en Rookoops, et au bout d'un moment, ton Rookoops, et ben, tu vas battre un mec, un insécateur, bah, tu vas garder l'insécateur, et tu fais ta team comme ça. Et c'est genre trop bien. Ça marche de ouf, et j'avais, franchement, c'est une des meilleures acromes. Après, j'en ai testé 2-3 autres, et j'étais, enfin, grave déçu à chaque fois. J'ai joué 5 minutes, et puis, ça part en insulte ou elle est trop bonne et tout, ça m'intéresse pas trop, enfin ça c'est vraiment un peu puéril quoi. Et pour le coup je conseille, si vous connaissez par cœur Pokémon Rouge, en plus ça récompense vachement les joueurs qui connaissent beaucoup et c'est super cool quoi, c'est vraiment très intéressant.
C'est ouf, je connaissais pas du tout, mais la façon dont je le présente, on dirait que ça pourrait être une extension de la série ou enfin un truc hyper officiel quoi.
Mais en fait, c'est ce que Pokémon ne sera jamais parce que ça reste pour un public d'enfants, il faut pas se le cacher. Et généralement les histoires sont très poupies, même s'il y a quelques petites transgressions ça et là. Mais ouais, non, ça donne un côté. Et voici Pokémon s'il avait l'univers d'un GTA ou d'un Witcher, tu vois, ou l'écriture d'un truc comme ça. Et alors sans faire de trop grosses comparaisons, mais si ça peut donner envie à certains d'y jouer, ça rafraîchit vachement. Et franchement, tu te poses aujourd'hui, si je rejoue à Pokémon Rouge après avoir joué à ça, je me poserai des questions sur ce que je suis en train de faire, quoi. C'est à ce niveau-là.
Ah, c'est tout ce truc de perspective où, ouais. Tu sais, le référentiel d'un et pas le référentiel d'un autre, quoi.
C'est ça.
Et peut-être qu'à Team Rocket avait d'autres.
C'est ça.
Motivation. Et ça me fait penser, moi je jouais à un jeu qui s'appelait Pokémon Revolution Online. Mm-hmm. C'était un jeu en ligne, donc tu pouvais voir tout le monde dans le monde et tout le monde jouait à Pokémon. Mais sauf que eux en fait, ils ont mappé toutes les cartes, c'est-à-dire que tu commences, tu fais ton Pokémon rouge, puis derrière tu vas à Johto, puis derrière à Hoenn, puis derrière tu continues, enfin et c'est infini, ils continuent à développer le truc. Et
c'est énorme.
J'ai toujours pas compris pourquoi Nintendo les a jamais shut down, parce que
ouais, c'est clair.
Clairement, genre, ils font même de l'argent, hein. T'as un système de membership pendant 30 jours. Et le truc était trop bien. Et en fait, il y avait même un marché. Certains Pokémon ont une certaine valeur. Il y a un mode compétitif. Tu peux acheter des Pokémon à d'autres personnes. Tu sais, genre, okay. T'es en ligne avec d'autres personnes.
Ok.
Moi, j'avais fait un Dratak qui avait genre des IV de porc. IV, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu genre, les stats cachés. Il y a certains Pokémon qui sont juste plus forts que d'autres, même si c'est le même Pokémon. Et tout le monde me mettait, à chaque fois que je le mettais dans un chat, tout le monde était m'envoyait un message personnel pour me dire ouais 500 000 je te l'achète. C'est trop drôle, tu vois, genre mais ça j'étais addict, j'ai joué pendant j'ai joué pendant un bon 6 mois mais je m'arrêtais pas. Et en fait au bout d'un moment tu finis par voir le bout du truc, parce que bah quand t'as fait toutes les cartes, quand tu t'es fait ta team compétitive puis tu fais que perdre, bah bon tu passes à autre chose quoi. Mais moi je me rappelle de ça. Heureusement ma copine vivait pas encore avec moi. je finissais à 4h, 5h du matin à chaque fois. Et je farmais. En plus, le pire, c'est que ma nuit, c'était moi qui me baladais sur la même haute herbe, je sais pas trop, juste pour trouver un type de Pokémon qui était super rare et pour avoir les bons IV, tu vois. Donc, j'étais avec mon petit Natu synchronized pour être sûr que, genre, il ait la bonne nature, etc. Enfin, je suis devenu vraiment le gros farmer, quoi. Genre, je me suis rendu compte que, j'avais passé 40 heures en une semaine à trouver un Pokémon, puis j'en avais même pas trouvé un correct, tu vois.
Et Pokémon, pour ceux qui ont envie de se plonger dedans, alors pas forcément la première génération parce qu'elle est vraiment très très brute hein, en termes de statistiques, en termes de possibilités et tout. Moi, je trouve que ça en fait aussi son charme, mais ouais, non, ça peut vite être assez dantesque la profondeur que ça a et la complexité que ça peut avoir. Hein. Vraiment, il y a des gens qui se butent à ça. Donc ouais, tu peux vraiment y trouver ton compte, peu importe la manière dont tu joues. Le dernier truc que je voulais dire par rapport à Pokémon Rouge, c'est que en fait, il y a quelque chose aussi que j'ai kiffé pendant toute cette génération-là où je jouais à Pokémon et que j'ai compris pourquoi je le kiffais après. Donc c'était un peu inconscient pendant que je le jouais. C'était que en fait, parce que c'était un peu mal codé et parce qu'il y avait plein de bugs et de glitches qui étaient possibles, il y avait un côté mystère, un côté un peu méta qui rendait Pokémon genre ouf. Genre typiquement quand je disais ouais, tu vas chercher Mew derrière le camion et tout. Mais il y avait aussi, je sais pas si vous souvenez le coup de l'île de Cramoisi où tu rentrais dans le parc safari, tu faisais genre X pas, tu sortais, tu allais à l'est de Cramoisi et puis tu faisais au bas et tu avais des Pokémon qui étaient au niveau 154 alors que c'est pas possible, ou tu as des Pokémon glitch. Et bah du coup en fait, il y avait un côté où tout était possible et tu te disais genre mais ça se trouve je peux faire des découvertes de ouf parce que je suis allé deux fois en haut, deux fois en bas et tout, et 99,9% du temps c'était pas possible et c'était juste faux. Mais c'est un côté aujourd'hui que je pense qu'on aurait plus, parce que la technologie et les langages de développement font que c'est vachement plus fermé, que les jauges sont vachement plus finies. Mais il y avait quelque chose qui échappait à la cartouche, qui était de l'ordre un peu du mystique, et cette espèce de chasse au glitch. Et je pense que on a tous autant joué à Pokémon qu'on a discuté des possibilités de glitch de Pokémon, ou des mystères, ou des légendes de Pokémon, tu vois. On a tous eu le Mew mystérieux, ou qu'on pouvait commencer avec un Léviator, ou voilà. C'est ça.
En fait, c'est juste missing numéro. En fait, c'était genre ça t'affichait un truc qui avait marqué missing numéro parce que le Pokémon n'existait juste pas, tu vois.
C'est ça. Et en fait, c'était quelque chose qui échappe complètement au développement. Et il y a genre peut-être 3-4 ans, je me suis mis à regarder une ou deux vidéos genre en mode les top 10 des meilleurs bugs sur Pokémon. Et en fait, c'est une abysse sans fond. Ne le faites pas, parce que après tu te mets à chercher, genre j'ai mitraillé YouTube, genre t'as plein de vidéos qui t'expliquent bah voilà pourquoi tel bug, qu'est-ce que ça fait dans le jeu, pourquoi ça existe, et quelles sont les possibilités, comment tu peux hacker ta cartouche avec quoi. Et du coup ça crée un côté un peu monde parallèle, presque science-fiction à Pokémon, que je trouve fascinant quoi.
Et je pense que c'est encore plus intéressant parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment Internet, c'était pas démocratisé, donc on n'avait pas la possibilité d'explorer autant de facettes du jeu quoi. T'avais juste l'occasion d'en parler avec tes potes et les personnes qui avaient le jeu, mais
carrément.
En soi, ça s'arrêtait à un nombre restreint de personnes.
Aujourd'hui, c'est terrible parce que, genre, le dernier Pokémon, je trouve pas un Pokémon, je vais sur Internet. Bon, bah, il y a 5% de chance que tu le trouves dans cette herbe-là. T'y vas, tu farmes un peu, et en fait, en 20 minutes, t'as pas vraiment de sensation de trouvaille. Tu trouves le Pokémon, et après, c'est ma faute, tu vois, j'ai qu'à pas y aller, mais c'est trop facile.
Il y a même le système de QR code, tu sais, genre, sur un des Pokémon, là, sur le truc les îles d'Hawaï. Il y a un système de QR code trop bizarre où en fait tu rentrais le QR code que tu pouvais trouver sur Internet, puis du coup le Pokémon apparaissait.
C'est ça. Et à l'époque on me disait genre il y a 5% pour qu'un Levenar soit entre l'avant-ville et Carmin-sur-Mer. Et ben en fait il y a un côté où tu sais pas en fait, et tu vas try pendant un jour parce que 5% c'est pas beaucoup, tu vois. Et tu dis mais putain, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et t'as un côté enfin, quand tu le trouves, tu trouves un Pokémon à 10% de chance de le trouver dans Pokémon. Genre, à l'époque, c'était, mais genre, ma journée était refaite. Alors, évidemment, t'as la naïveté de l'enfance et tout. Mais voilà, c'était des sensations qu'on retrouverait plus aujourd'hui. Pas parce que les jeux vidéo le permettent plus, mais parce que c'était une autre époque, c'était une autre manière d'accéder à l'information. Et c'est ça aussi qui reste de ma pensée sur Pokémon Rouge, quoi. C'est le jeu, moi, et tout le contexte d'accès à la formation et de rapport aux jeux vidéo entre la société et le jeu vidéo, et c'est passionnant.
ce feeling-là, je l'ai un peu retrouvé sur le MMORPG, justement, ce truc de recherche, et t'arrives à trouver, parce que ils changeaient les zones toutes les saisons, en fonction des saisons, des choses comme ça. Ils avaient un système quand même bien fait là-dessus. Et du coup, quand t'allais pour chercher quelque chose, tu savais jamais si ton information que t'avais trouvée était vraiment bonne sur Internet, parce que il y a plein de mises à jour, il y a plein de trucs, il y a plein de guides, il y a plein de personnes qui donnent des infos différentes. Ouais. Et en fait, personne n'est capable de te dire, ouais, c'est vrai. Et parfois, on était 10, 20 dans la même zone en train de chercher. Et c'est sûr qu'on cherchait le même truc. Puis, tu sais, on s'envoyait des messages, genre, mais t'arrives à trouver? Bah, non, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Déjà, genre, ouais. C'est des trucs marrants, tu vois, où tout en
ça donne de la valeur.
Le matin, la nuit. Enfin, c'est des, puis c'est la vraie heure de la journée. Matin, nuit. Donc,
oui. C'est clair.
Tu devais trouver un Pokémon la nuit, bah, tu farmais la nuit, quoi.
C'est ça.
Et ouais. C'est vrai que ça a un peu perdu ça, mais. Alors, Pokémon, ça reste Pokémon.
Et vu qu'on parle de MMORPG, là, je pense que c'est une belle transition pour ton deuxième jeu.
Yes.
Il était un RPG pour le coup.
C'est ça. Il n'y a pas le MMO dedans.
Ouais.
Ah, mais tu noteras que pour l'instant, on a deux jeux solo.
C'est vrai.
J'étais fils unique. Est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Mais ouais, du coup, pour le deuxième jeu, pur RPG. Action RPG, on va dire, même c'est Elder Scrolls 4 Oblivion, donc sorti en 2007 si je trouve, ou 2006, je sais plus. En tout cas, voilà, j'étais adolescent, j'avais à peu près 12, 14, 15, 16 ans. Et alors aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens diraient Skyrim, forcément, qui est sorti quelques années plus tard.
Ouais.
Mais Skyrim, pour moi, c'était, je l'ai fait un peu sur le tard. Et la première vraie rencontre, c'était avec Oblivion. Et encore une fois, c'était pas avec mon PC, c'était pas ma console, c'était chez un pote, en fait, un pote du collège, qui on glandait rien, et lui avait un super PC machin, et il pouvait toujours faire tout tourner au max. Donc j'étais un peu vert, parce que moi j'avais un PC de merde, un peu tout nul, et il m'a montré Oblivion, et je l'ai vu. J'ai regardé jouer à Oblivion avec une jalousie qui dont j'ai honte aujourd'hui. Mais j'étais vraiment, je voulais que ce soit moi qui joue, et même s'il me laissait la souris, la parole, le truc de temps en temps, moi c'était pas mon personnage, c'était pas donc c'était pas pareil. Et au bout d'un moment, j'ai eu mon propre PC. J'ai beaucoup moins parlé à ce pote-là à partir du moment où j'ai pu jouer à Oblivion moi-même. Est-ce que je suis un très mauvais pote? Sûrement, peut-être.
Pas intérêt, mais juste intérêt d'un jeu.
C'est ça. mais voilà, du coup, j'ai pu lancer ma propre partie d'Oblivion. Et moi qui étais à ce moment-là en plein dans l'univers de fantasy, je lisais de Narnia au Seigneur des Anneaux, machin. Quand tu te plonges là-dedans et que d'un coup tu passes, des Pokémon que tu vois en 2D d'en haut, où tu peux faire gauche droite au bas en orthogonale, à Oblivion, où je sais pas si vous y avez joué un petit peu, mais genre la vidéo d'intro qui fait le tour de la ville dans laquelle t'es au début, qui est une espèce de grande capitale, et ça tourne autour, et genre t'as l'écran et tu vois le monde, genre les arbres et tout modélisé, et tu dis putain, j'ai tout ça à explorer, et bien plus. Enfin, c'était trop pour moi, et j'ai passé des heures incalculables sur ce jeu.
Je sais pas pour Chris, moi j'ai pas joué à ces jeux-là. Je pense que j'ai loupé quelque chose. Enfin, j'avais pas d'ordi, ouais, qui était capable de faire tourner. C'était des jeux qui demandaient beaucoup. J'ai tenté un Skyrim, mais je l'ai tenté il y a 2 ans. Et en vrai, sur Switch, il faut dire que le truc a vraiment mal vieilli. Surtout sur Switch, où ils ont pas mis les graphismes comme il faut. Et en fait, je me suis retrouvé, le jeu, j'ai détesté, mais pour quelque chose de stupide, c'est juste que je me suis retrouvé au début, tu vas voir le forgeron. Tu sais, quand tu commences un jeu, tu cliques sur tout. Ouais. Et chez le forgeron, il y a des objets. Et donc moi, je les prenais les uns les autres, puis je me retrouvais à en prendre 1, 2, 3, 4, 5, puis à un moment, j'avais toute sa maison dans mon sac, tu vois. Et là, il y a sa femme qui me voit voler un objet, et elle commence à me poursuivre, puis là, elle commence à me taper, puis je comprenais pas, tu vois, j'étais genre, qu'est-ce qui lui arrive? Et après, elle était là en mode, ouais, filthy, genre thief, genre en mode, genre sale voleur. Puis, du coup, je suis sorti de chez eux, et j'ai commencé à courir, et elle m'a poursuivie dans tout le village. Tu vois, et je me suis dit, genre, à un moment, il y a bien une mécanique, elle va rentrer chez elle, puis elle va m'oublier, tu vois. Et en fait, non, rien à faire. Une heure de jeu, deux heures de jeu, elle voulait tout le temps me flinguer, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, elle me saoule un peu, donc bah, je l'ai flinguée. Je l'ai tuée, parce que c'est possible de la tuer, tu vois. Ouais. Là, je suis retourné dans la maison, j'étais là en mode, ouais, le forgeron, c'est bon, je suis prêt pour ta mission. Et là, le forgeron, il a sorti sa meilleure hache, et il m'a défoncé. Et en fait, impossible de continuer cette quête-là. Et je trouvais pas, enfin, tu sais, j'aime pas trop regarder moi sur internet, du coup je trouvais pas de solution par moi-même, donc le jeu j'ai fini par lâcher parce que c'est lui qui donne tes premières missions tutorielles, puis je savais rien faire. Donc c'était hyper compliqué, et je pense sur ce truc là j'ai arrêté, alors qu'en fait en y réfléchissant la mécanique est super bonne, tu vois. C'est juste que c'est frustrant au début. Apparemment j'ai fini par lire que tu peux aller payer je sais pas qui pour que ta dette, enfin en gros que ta tête soit plus mise à prix, et qu'à ce moment-là, elle récupère de l'argent, je sais pas quoi, elle t'excuse, enfin. Il y a toute une mécanique là-dedans que j'ai juste pas creusé. Et faut se dire que j'ai commencé ce jeu-là, je l'avais pris comme jeu d'hôpital, je savais que j'allais passer un mois à l'hôpital. Puis j'avais l'impression, déjà, je détestais ma vie parce que j'étais à l'hôpital, mais ce jeu m'a fait détester ma vie encore plus, je me suis dit. Et je m'inflige une souffrance, tu vois. Donc j'ai fini par jouer à Pokémon, mais tu sais, le Pokémon là, qu'ils avaient sorti, une espèce de Pokémon sur Switch et sur mobile qu'ils avaient sorti, qui était Pokémon Quest. Oui, oui. Ça, et j'y ai passé un mois. Hein. Ce truc-là, c'est le jeu le plus basique possible. J'y ai passé un mois. mais ouais, j'ai pris le jeu le plus basique plutôt que jouer à Skyrim. C'est un peu... Mais je suis persuadé que c'est des très très bons jeux pour le coup. Je sais pas si Chris, toi, tu y as déjà joué, mais...
Non, non, pareil, j'y ai pas joué, mais c'est marrant que tu... Toi, du coup, Robin, t'es rentré par Oblivion. Est-ce que t'avais joué à The Elder Scrolls 3 d'abord, ou c'est vraiment celui-ci le premier?
Non, parce que comme je te disais, en fait, j'avais pas l'ordi avant. Et
donc, celui-ci est sorti Oblivion sur console aussi juste après, non? Sur 360 et PS3.
C'est ça, mais j'avais pas encore les consoles non plus. Du coup, c'était vraiment genre PC et bah voilà, ça devait être un de mes premiers cadeaux de Noël ou machin, et j'en avais profité. En plus, j'étais un peu geek sur les bords, donc c'est voilà, moi j'aimais bien tripoter et tout, donc ouais, non, mais c'est Oblivion, c'était des grandes sessions où bah je venais de digérer, comme je te disais, les grands écrits de fantasy, notamment j'avais une fixette sur le Seigneur des Anneaux, avec les films et aussi avec les bouquins. Et ça s'inscrit tellement, en fait. C'est-à-dire que t'as des elfes, direct, tu vois création de personnage, tu vois elfes, tu vois orques, tu vois des trucs comme ça, et tu te dis, mais putain, en fait, là, ce que je suis en train de lire, je le matérialise. Et encore une fois, en fait, finalement, tu vois, j'y avais même pas réfléchi. Mais là, je me dis, c'est comme Pokémon Rouge. C'est-à-dire que Pokémon Rouge, j'avais aucune attente, donc c'est plus la découverte d'un médium. Là, Oblivion, j'avais l'impression de pouvoir interagir avec tout ce que je lisais avant. Et voilà, moi je, alors il y a un truc, moi je me suis dit tout de suite je vais faire magicien, et j'ai une malédiction en fait dans Oblivion qui m'a suivi après sur Skyrim, c'est que je prends que des classes magicien. Et à chaque fois je me dis je vais faire autre chose quand même, enfin tu vois, c'est comme manger le même sandwich dans ton resto préféré, tu vois, de ton truc de tacos ou de fast food préféré, tu vois, au bout d'un moment change un peu, tente le milkshake ou je sais pas, fais quelque chose. Et à chaque fois, je prends un breton, pour ceux qui connaissent. Donc c'est voilà le truc le plus magique. Alors parce qu'en fait, j'aime pas les elfes. Petit aparté, je raconte ma life. J'aime pas les elfes en règle générale. Je les trouve suffisants, condescendants et un peu racistes. Donc vu que c'est trois qualités que j'aimerais pas qu'on m'applique, j'aime pas les elfes et je prends pas des elfes. Mais voilà. Donc voilà, à chaque fois, je prenais breton, ce qui me ressemblait le plus en termes physiques, puisque c'est un être humain et qui peut faire de la magie. Et souvent, voilà, moi je connaissais plein de potes qui faisaient des grosses builds de paladins avec des giga armes ou des orques avec des haches et tout. Et à chaque fois, on me disait, mais pourquoi tu fais tout le temps magicien? Et ma réponse, elle est très simple. Dans la vie, potentiellement, je peux me battre avec une hache ou avec une épée. Je peux le faire dans la vraie vie. Par contre, je peux pas cracher du feu avec mes mains ou me faire un sort de protection avec ma tête. Du coup, je vais utiliser le jeu vidéo. Si je joue à un jeu vidéo qui permet de faire virtuellement n'importe quoi, je préfère faire quelque chose dont je ne suis pas capable, plutôt que quelque chose que je peux faire en prenant une épée et en faisant bing-bing contre un arbre ou je ne sais quoi.
Ça se tient.
Voilà, c'est très con. En vrai, je dis ça de manière la plus sérieuse du monde, mais c'est très con. Hein. Enfin, c'est à moitié une vanne. Mais voilà, moi, c'est un truc, ça me... J'ai joué à Oblivion aussi pour faire tout ce que je ne pouvais pas faire dans entre guillemets la vraie vie, ce qui est quelque chose qui peut sonner un peu triste et geekou, j'en ai bien conscience, mais quand t'as 13-14 ans et que t'es un peu voilà, que t'es un peu dans ces univers là c'est un plaisir incommensurable.
Ah, c'est pour la même raison que moi ou même Chris, je suis sûr, on allait toujours voir les putes dans GTA, même si on avait la vie pleine, tu vois. À un moment. non, ouais.
Pas que la vie de pleine, je suppose.
Mais non, clairement, la fantasy dans les jeux, moi aussi, j'adore. Genre, c'est vraiment. Voilà. Bah, le dernier Star Wars, j'ai joué juste parce que j'avais envie de manier un sabre dans, dans Star Wars, tu vois. Genre, c'est tout, il n'y a pas de.
Mais ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, et aussi le fait que le. Ça, c'était quand même une grande première. Alors, c'est pas Oblivion qui l'a inventé du tout. Il y a eu plein de jeux, mais pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Encore une fois, je pense que le but de ce podcast aussi, c'est de présenter les films qui nous marquent le plus, nous, pas de faire des top 10 des meilleurs jeux de tous les temps, parce que sans quoi tout le monde est à peu près d'accord, ou en tout cas, c'est pas la bonne discussion à mon sens. Et là, moi, pour moi, ça a inventé le fait qu'un jeu puisse me répondre. Parce que c'est un délire, ça. Quand tu commences au début, bah forcément, tu joues à des jeux un peu simples où bah t'as des PNJ qui te répètent 50 fois la même chose et typiquement dans Pokémon, il y a un vieil arbuste qui te bloque le chemin. Je veux dire, fais le tour, passe à côté, ou même tu vois, genre tu sais les petites plateformes que tu peux descendre mais pas remonter, mais utilise tes bras. Enfin, je sais pas, fais quelque chose, tu grimpes. Donc il y a un côté un peu contrainte à aller arbitraire. Et comme t'as dit en fait, t'as ton anecdote. Sur Skyrim, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu fais un truc et tu t'attends pas à ce que le jeu te réponde. Et le jeu te répond, dit bah non, en fait là t'es en train de voler des armes, donc je vais te buter. Et la première fois, enfin le sentiment de terreur que tu as quand tu butes un random dans une ville et que t'as tous les soldats qui te coursent, tu dis mais il se passe quoi en fait ? Il y a quelque chose qui est dans le jeu vidéo. Tu vois, je parlais de avec Pokémon de la sensation de naïveté. Le jeu vidéo peut servir à te faire ressentir des émotions incroyables, et c'est pas grave si ces émotions sont un peu négatives. Moi, je suis très avocat du fait que c'est pas grave d'être en colère, ou si un jeu te met en colère ou un jeu te fait peur, comme un film d'ailleurs, il est pas automatiquement mauvais. Tu peux avoir un jeu vidéo ou un film dont tu n'es absolument pas d'accord avec les propos et l'aimer quand même parce qu'il les présente, il les met en scène, il les fait interagir, ça dépend du médium, d'une manière que tu avais jamais vu avant ou d'une manière qui te fait poser des questions. Donc c'est aussi ça que ce genre de jeu permet aussi, l'action RPG, notamment dans des dimensions aussi fortes qu'Oblivion, c'est que ça te permet de te fixer toi-même le compas moral du bien et du mal, quoi. Et dire, bon, bah voilà, ça, je le faisais tout le temps dans les jeux vidéo, je m'amusais à buter le PNJ ou le mob qui était là parce que ça me faisait marrer. Là, il y a des conséquences, est-ce que je vais continuer à le faire? Et Oblivion, tu vois, typiquement, moi, dans les jeux vidéo, quand il y a des choix moraux à faire, genre, est-ce que vous voulez être le gentil ou est-ce que vous voulez être le méchant, j'arrive jamais à être le méchant, je fais toujours les trucs gentils, voilà, je fais toujours de la storyline gentille dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est parce que Oblivion m'a appris ça. En fait, Oblivion m'a appris, bah voilà, il peut y avoir des conséquences, et même si un autre jeu va pas me punir de faire le mal, et ben j'ai pas envie de me faire. Puis c'est chiant en fait de se faire pourchasser par les flics. Moi, j'ai jamais compris les mecs dans GTA qui prenaient du plaisir. Voilà, j'ai jamais compris. Mais genre, c'est genre t'es stressé, genre.
Mais non.
C'est stressant de te faire pourchasser. Enfin, tu vois, genre, il y a un côté où j'aime bien être tranquille. Moi, les rares fois, j'ai pas trop joué à GTA dans ma vie, mais que ça soit dans Oblivion, dans GTA ou n'importe quel monde ouvert, moi j'aime bien me balader pépouze. Moi, je suis le genre de mec qui respecte le code de la route dans GTA, tu vois. Il y a un stop, je m'arrête, hein, il y a pas de souci.
En tout cas, je peux te dire que
zéro étoile
t'es pas stressé quand t'es poursuivi par la police mais t'es dans un tank. C'est ça la technique, tu vois, genre. Dans ton tank, rien ne peut t'arriver.
J'avais pas pensé à ça. Ah, mais y a pas de tank d'Oblivion. T'as un vieux cheval qui crève au bout de deux flèches. Non, et puis, aujourd'hui, même si effectivement, ça a pris un coup de vieux de ouf, mais 2006, c'était, sans rentrer dans des grandes considérations éthiques, morales, je sais pas quoi, c'était beau de ouf, quoi. C'était super beau, d'avoir tous les personnages qui ont la même gueule que toi et qui ont le même niveau de définition que toi. C'est ouf aussi, tu vois.
Et pareil, j'avais pas joué, mais en me renseignant et en regardant des vidéos, etc., il semble que l'architecture, comme tu as pu le dire, c'était vraiment hyper bien travaillé. Donc on est dans un beau open world et même les villes, les villages, enfin tous les différents environnements étaient hyper soignés et ça rendait le côté immersif encore plus présent.
Carrément. Et c'est marrant parce que ça, c'est une baffe d'immersion que j'ai eue en jouant à Oblivion. Je saurais pas te dire où, je saurais pas te dire quand, etc. Mais j'ai commencé il y a 6 mois The Witcher 3 que j'avais jamais fait. Et je suis rentré dans la première grande ville de Witcher 3. Je crois que c'est Novigrad, je crois. Et je me suis dit, putain, mais en fait, je suis à Strasbourg, là. Et c'est la première fois que, c'est con, c'est une vanne, mais en fait, c'est la première fois où je me dis, je me vois dans une ville, comme, enfin, c'est une vraie ville, quoi. Il y a des gens, ça bouge et tout. Et je pense qu'Oblivion n'était pas du tout à ce niveau de détail, parce que techniquement, c'était pas possible. À ce niveau de détail, à ce niveau de nombre de gens dehors, à ce niveau de détail d'architecture, de petites ruelles et tout. Mais comparativement, je pense que ce que m'a fait Witcher 3 et ce qu'a fait tout le monde avec Witcher 3, ce côté waouh, j'avais jamais vu autant d'immersion, autant de dynamisme. Ça, c'est ce qui nous a fait, pour ceux qui comprennent pas aujourd'hui, qui regardent, si tu regardes un peu, voilà, des vidéos, des images d'Oblivion et que tu dis, bon, ça a l'air un peu vieillot, et ben, à l'époque, c'était ce genre de waouh, tu vois, ce genre de cap, comme tu peux y avoir des caps avec des consoles, des générations de consoles, il y a aussi des caps d'immersion. Et voilà, c'était quand même du très haut niveau, comme dirait Didier Deschamps.
Super, bah je pense qu'on peut passer au troisième et dernier jeu de ton top.
Ouais.
Her Story Game.
Her Story. Her Story, alors ça, c'est pour le coup, c'est beaucoup moins connu. Ça gagnerait à l'être. Et je suis tellement amoureux de ce jeu qu'en vrai, c'est presque de la pub que je fais.
C'est beau.
Est-ce que vous connaissiez, vous deux, Her Story avant que je m'y plonge?
Pas du tout. Et je propose que tu le pitches d'ailleurs parce que. J'ai commencé à faire mes recherches sur le jeu et j'ai lu tellement de bien que je me suis dit je vais arrêter là parce que sinon ça m'a spoilé parce que je sais que je vais le faire plus tard et je vais pas être spoilé parce que ça va vraiment me gâcher l'expérience.
Tout à fait. Alors c'est là où c'est compliqué de se renseigner sur Her Story parce que c'est un jeu où tu dois tellement tout faire toi-même, où la découverte de l'histoire et du gameplay est tellement important par toi-même que c'est compliqué de le faire sans spoiler, mais vu que chaque fois qu'on me demande mes jeux, enfin qu'il y a des gens qui ont du malheur de demander les jeux préférés, je dis Her Story. Donc je suis un peu rodé sur trouver le bon équilibre, donc je vais vous le faire pour si jamais vous connaissez pas, et si jamais vous connaissez, bah, vous allez juste kiffer parce que c'est toujours rigolo, c'est comme expliquer, je sais pas, c'est comme expliquer le sixième sens, tu vois, sans trahir le truc, mais genre ceux qui savent, clin d'œil quand même. Alors Her Story, en fait, c'est un jeu vidéo qui est un peu particulier, qui est un FMV, donc FMV c'est full motion vidéo. En gros, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'image 3D, c'est pas de la modélisation, c'est pas un jeu où tu cours, c'est pas un action RPG, c'est pas un RPG, c'est pas rien du tout. C'est un jeu avec des bouts de films dedans, en tout cas des gens filmés, des vidéos plus vraies que nature. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Her Story, tu te mets dans la peau d'un détective, tu allumes ton ordinateur, ton interface, en fait, ça va être celui d'un vieil ordinateur comme un vieux Mac ou les Windows 95 que tu avais. C'est plus, voilà, Windows 95. Et dans ce Windows 95 qui est à la police, tu as des vidéos, des petits bouts de vidéos d'une femme qui parle, qui raconte, en fait, une histoire qui est son histoire. Voilà, Her Story. Une histoire dont je ne vais pas vous donner le genre, mais c'est une histoire qu'on va devoir détricoter nous-mêmes. Et comment on fait ça? En fait, c'est son histoire, c'est, si tu veux, un interrogatoire de police qui se passe sur X temps, c'est à vous de le découvrir. Et cet interrogatoire de police, on va l'avoir par petits bouts de vidéo. Et comment on va regarder les petits bouts de vidéos, alors vous allez me dire, bah c'est simple, tu vas tout à la fin des vidéos, tu regardes la dernière vidéo et tu sais ce qui s'est passé. Sauf que c'est plus compliqué que ça. En gros, chaque mot que cette dame prononce, par exemple si elle va dire le mot butter dans une vidéo, ça va être enregistré dans un moteur de recherche, qui est un moteur de recherche inclus dans le jeu. Donc toi, tu es sur ton Windows 95, tu as une barre de recherche, et imaginons que tu tapes butter dans la barre de recherche.
Et bah, tu vois, le jeu est 100% en anglais. C'est pour ça que tu dis butter.
Ouais, exactement. Ouais, ça n'a pas été traduit parce que je pense que c'est malheureusement pas traduisible. Il n'y a pas de localisation possible. Donc, si tu mets le mot butter, et bah, tu vas avoir toutes les vidéos où elle va dire le mot butter, sachant que les vidéos, c'est, ça va de 10 secondes à 1 minute 30. Et voilà. À partir de ça, tu essayes de imaginons, elle va dire, bah, I use some butter with my friend Mike. Tu veux dire Mike, c'est qui Mike? Tu tapes Mike. Ah, bah, il y a 4 vidéos avec Mike dedans. Ou elle dit. Et tu vas faire ton truc comme ça. Et c'est le genre de jeu que tu lances avec ton ordi et dont tu joues beaucoup plus avec ton calepin, un crayon et une gomme. C'est un jeu particulièrement prenant qui a la particularité notamment de ne presque pas avoir de fin. C'est-à-dire que tu décides de terminer le jeu quand tu décides que tu as tout compris.
Et est-ce que tu as décidé de terminer le jeu et tu penses avoir tout compris?
Je pense avoir la bonne théorie, je pense avoir les bonnes versions des faits. Maintenant, j'y ai joué avec un pote, qui, j'ai joué quelques jours avant le jour de l'an 2015, il me semble. C'est le jeu est sorti en 2015, donc je crois que c'était soit 2015, soit 2016. Au début, on était deux. Après, il y a un autre pote qui est venu nous rejoindre au bout de quelques heures de jeu parce qu'il nous entendait nous extasier sur notre petite découverte et tout. On a fini par y jouer toute la nuit. Wow. On a terminé à 5h du matin. On s'est dit, là, je pense qu'on a tout. Et de 5h à 8h du matin, on s'est rendu compte qu'on avait tous une version légèrement différente de ce qui s'était passé. Et on a débattu pour savoir qui avait raison. Et à ce jour, on ne sait pas exactement qui de nous trois a raison.
Mec, c'est génial. Franchement, juste avec ce pitch-là, je sais pas comment ne pas convoiter...
On va se faire une soirée, Chris.
Exactement.
Alors, c'est le genre de jeu qui se joue extrêmement bien à deux. Surtout, évidemment, ne rien lire sur le contenu du jeu, sur son propos. Ça, vraiment, ça permet de mieux... Moins on en sait, mieux c'est. Ça, c'est un peu ma devise aussi sur un peu tout. Mais il y a rien de mieux que la découverte. En fait, c'est compliqué d'en parler, évidemment, parce que t'as pas envie de spoiler le jeu. Un petit élément de contexte, c'est Sam Barlow qui a développé et édité le jeu. Sam Barlow, c'est un développeur qui a été surtout connu pour Silent Hill Shattered Memories, qui était un espèce de spin-off à Silent Hill, alors j'y ai pas joué, mais qui a été révéré un petit peu pour son scénario très alambiqué et ses mécaniques de gameplay. Donc c'est un mec qui aime bien tripatouiller du gameplay et rendre des trucs un peu différents. Et quelque chose qui est vraiment passionnant dans leur story, c'est que il y a plein de jeux qui ont essayé de faire de l'enquête, qui ont essayé de mettre le joueur comme le Sherlock Holmes un petit peu d'une situation. Et il y en a assez peu qui ont réussi parce que précisément, en fait, souvent on te dit ah bah il faut que tu trouves comment ça ce tel truc s'est passé. Et on te donne des phrases toutes faites. Genre on te dit bah soit tu dois dire ah c'est Mike qui a tué la dame, soit on te donne à dire c'est la dame qui a tué tout le monde, soit on te donne à dire non, c'est rien du tout, c'est une autre version. Et au final tu es toujours un petit peu coincé parce que tu dis mais moi j'aimerais bien dire que c'est pas Mike ni la femme ni personne mais que c'est le cousin Johnny qui est responsable de tout ça. Et on te laisse jamais la possibilité de le faire. Et là, bah, typiquement, c'est ce que tu peux le faire, et c'est grisant parce que t'as vraiment l'impression de progresser toi-même, et il y a quelque chose qui est passionnant aussi sur ce genre de jeu, en fait, moi, je le conseille aux gens, un, pour qu'ils aient une bonne expérience, parce que c'est un jeu qui est kiffant à faire, ça prend, en fait, ça peut prendre 3 heures si vous décidez si vous êtes très fort ou que vous décidez que vous avez la bonne version. Ça peut vous prendre 10 heures si vous voulez connaître absolument tous les détails. En fait, je le conseille à la fois parce que c'est kiffant, voilà, et que j'ai envie que plein de gens connaissent ce jeu et y jouent et aient cette expérience de la narration. Et surtout, j'ai envie de savoir comment les gens ont trouvé quoi. Parce que c'est tellement kiffant de se raconter des expériences. C'est le genre de jeu, c'est autant kiffant de le jouer que de raconter derrière et de se dire ah ouais bah, toi t'as fait comme ça, putain moi j'ai pas du tout trouvé ça comme ça, et ce personnage là tu l'as trouvé comment, putain mais moi j'ai fait ça d'une manière complètement différente. Et ouais, non, c'est une, en fait je pensais avoir fait le tour à ce moment là des jeux vidéo. Voilà, j'avais fait mes trucs d'aventure, j'avais fait quelques RPG, j'avais essayé le MMO, ça m'a jamais trop plu. Je me disais bon, ok. Et hors story, je me suis dit mais en fait, je veux jouer à des trucs comme ça tout le temps. Et quels sont les autres? Qu'est-ce qu'on m'a caché en fait? Et il y en a pas beaucoup, mais il y a des jeux qui permettent de vivre des trucs qui sont au-delà du jeu vidéo. Et en fait, j'ai choisi Her Story aussi parce que je saurais pas exactement comment dire, mais en fait, j'ai choisi Her Story parce que je savais que ça allait être une expérience différente et que j'allais le raconter différemment que Pokémon Rouge et Oblivion. Pokémon Rouge et Oblivion, je savais, si même aujourd'hui je les kiffe, tu vois, mais je sais que je joue à des jeux vidéo, tu vois. Franchement. Genre, je me pose devant Oblivion, j'ai ma manette en main et tout. Her Story, c'est une expérience différente. Her Story, c'est vraiment, c'est au-delà. Et je dis pas que c'est genre un meilleur jeu que d'autres, tu vois. Je dis pas que c'est un meilleur jeu que GTA ou que c'est un meilleur jeu ou que c'est plus intelligent ou quoi que ce soit, pas du tout. Je dis juste que ça te suit ailleurs que juste devant ton écran ou juste devant ta télé avec ta console, tu vois. C'est genre le truc qui, voilà. C'est, si vous aimez les thrillers de petits malins, les trucs qui vous tiennent en haleine et tout, bah, imaginez que, vous kiffez, je sais pas, Memento de Christopher Nolan ou ce genre d'histoire un peu alambiquée. Et bah, dites-vous que non seulement vous allez être spectateur de ça, mais vous en allez être le premier instigateur, quoi. La première interaction. Et en fait, je me rends compte, tu vois, je vous ai donné la liste parce que c'est forcément un peu mes jeux préférés. À chaque fois, c'est un jeu qui a révolutionné quelque chose dans mon rapport à cet art-là et dans mon rapport à l'interaction. Et qui a révolutionné mon implication dans les jeux vidéo. À chaque fois, ça pousse un peu plus loin de trois manières différentes. La manière dont le jeu vidéo s'est inscrit en moi et la manière dont je vois la profondeur du jeu vidéo. Et ça se trouve, dans 10 ans, je jouerai à un autre truc. Ça se trouve, ça va être dans 2 semaines avec Cyberpunk 2077, j'espère. Mais je dirais, bah, ce truc-là, ça a encore poussé mon immersion un peu plus loin, quoi.
Et dernièrement, du coup, tu joues à quoi ?
Alors, dernièrement, j'ai joué à ce qu'on pourrait qualifier de Her Story 2 avec le même pote. Je l'ai terminé il y a 5 heures. J'ai joué à Return of the Obra Dinn, qui est un jeu PC Switch, je crois, où t'es un agent d'assurance en 1806, truc comme ça. Tu rentres sur un bateau, il y a un macabée par terre et t'as une montre un peu spéciale qui te permet de revoir l'instant où ce macabée a été tué. Donc t'as une espèce de flashback et en gros tu dois faire de flashback en flashback. T'as 60 personnes dans l'équipage et tu dois déterminer qui est quoi, enfin qui est qui. Donc t'as une liste de noms et tu dois dire dans les 60 qui est qui et comment il a été tué et possiblement par qui. C'est en gros c'est Her Story d'une manière différente, mais c'est Her Story aussi, et c'est, dans 2 semaines, ça rentre dans mon top 10 de jeux vidéo ever, c'était incroyable.
Ah ouais.
Alors, je dis pas que j'ai des top 10 tous les 6 jeux, hein, mais vous arrivez juste au bon moment, quoi. J'ai eu un de mes coups de cœur vraiment de la décennie, là. Her Story, Return of the Obra Dinn, c'est juste ouf. Après, sur ce que je joue de manière complètement plus casue, j'aurais pu le mettre. Je joue pas mal à Trackmania en ce moment, le nouveau qui est sorti. C'était une grosse partie de mon enfance et j'ai toujours un peu kiffé les jeux de course, donc ça, c'était cool. Comme j'ai dit, j'ai rejoué à Witcher 3. Et alors, c'est marrant parce que Witcher 3, c'est un super jeu, c'est excellent. Mais je crois que je suis trop vieux pour la fantasy, en fait. Ça marchait bien quand j'étais ado et j'ai une distance qui s'est créée de plus en plus. Et en fait, je kiffe le jeu, mais je me rends compte que l'ambiance, je m'en fous un peu. Et ça me connecte encore plus à Cyberpunk, parce que je sens que Cyberpunk, je vais le kiffer, parce que Cyberpunk, j'ai l'impression que Cyberpunk, en fait, ça va être un espèce de mélange entre les Elder Scrolls et une autre série de jeux que j'aurais pu citer à la place d'Oblivion, c'est Deus Ex.
J'allais le citer à un moment quand t'as dit que chaque décision avait une importance à la fin. Ouais. Deus Ex, c'est le premier, quoi. Genre, c'est.
J'aurais pu parler aussi longuement de Human Revolution. Après, voilà, le premier, j'y ai joué un petit peu, mais pas énormément. Mais Human Revolution, Mankind Divided, c'est vraiment ces deux jeux qui sont trop, trop incroyables. Et en plus, ça, pour le coup, ça colle vraiment à ce que je kiffe. Je sais pas pourquoi j'avais une fixette quand j'étais genre entre l'enfance et l'adolescence, à m'imaginer avec des espèces de prothèses robotiques et je pouvais faire des trucs de ouf avec. Alors quand Deus Ex est sorti, je me suis dit putain, mais en fait c'est mes rêves de quand je m'endormais le soir, faire en jeu vidéo, c'est incroyable, quoi.
Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin?
Un mot de la fin, en vrai, mon mot de la fin, c'est que forcément, si je vous ai donné envie de jouer à Our Story, ouais. je pense que les deux autres, soit c'est trop tard pour y jouer, soit vous les avez déjà poncés. Si je dois mettre un petit conseil sur Our Story, c'est qu'une fois que vous allez terminer Our Story, si tout se passe bien, vous allez avoir un espèce de vide énorme en vous, parce que vous allez dire, mais j'ai jamais joué à un truc comme ça, et j'ai envie de rejouer à un truc comme ça. À ce moment-là, je peux vous citer en gros il y a trois autres jeux. Donc, il y a Return of the Obra Dinn, que je vous ai cité juste là. Il y a Telling Lies, qui est en fait le même principe, par le même créateur, mais c'est une suite et c'est autre chose. C'est le même principe que Our Story, mais avec un autre genre. Avec un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Logan Marshall Green, qui jouait dans Prometheus, par exemple. Et le dernier, qui est mon jeu favori, mais je l'aime tellement que je l'ai pas encore intellectualisé, j'ai pas encore compris, j'ai trop peur d'en parler sans dire d'énormes conneries. C'est un jeu qui s'appelle The Witness, qui a été créé par Jonathan Blow. Et quand à chaque fois je vous disais que tous ces jeux-là m'avaient fait révolutionner quelque chose dans mon rapport aux jeux vidéo, The Witness, c'est un jeu que je vois tous les jours. Je peux pas vous dire autrement, et je suis désolé si c'est ultra flou ou si ça semble bizarre ou pédant comme type d'argument, mais c'est un jeu que tu comprends quand tu le vois dans la vie de tous les jours. Et c'est encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est un peu maudit pour moi parce que je l'ai surkiffé, mais c'est un puzzle game. C'est un puzzle game où t'es sur une île, il y a aucun dialogue et tu dois juste trouver la sortie de labyrinthe. Voilà, dit comme ça, ça paraît chelou, ça donne pas forcément envie. Mais c'est un jeu qui me hante quoi, qui m'a rendu maudit. Je suis maudit par ce jeu, je le vois partout et c'est le propre du titre pour moi, c'est que tu es témoin. En fait, t'es le témoin du créateur du jeu qui voit ce jeu partout et son but en fait, c'est de te ruiner ta vie à toi en disant que tu vas voir ce jeu partout en fait. C'est un peu comme It Follows en fait, l'espèce de film d'horreur là, je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, ouais. on te touche, c'est toi qui as la malédiction.
Transmettre, donc c'est ce que tu viens de faire avec brio.
De manière maligne, tu te rends compte.
Bon bah super, merci beaucoup.
Bah de rien.
C'était nice, merci.
Et à la prochaine, ciao.
Ciao.
C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.